Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Jacques-Yves Molima, Aouta.
La task force ayant reçu du chef de l'État la mission de sensibiliser les miliciens opérant en Ituri a rendu compte de sa mission hier ici à Kinshasa. D'après Thomas Lubanga et Floribert Ndjabou, malgré leur prise en otage, la mission a été un succès. Et puis le cimetière de Kitsuka ici à Kinshasa est spolié. Des personnes construites dans ces lieux en détruisant les tombes des disparus. Le bourgmestre de Mongafula les prévient cependant qu'ils investissent à la perte car bientôt toutes ces constructions seront démolies. Il ne faudrait pas considérer l'enseignement comme un canard boiteux car ce secteur produit des enfants compétitifs. Déclaration du directeur provincial de l'EPST Sud Kivu 1, Simon Zono, est notre invité en ce 30 avril, journée nationale de l'enseignement en RDC. Voilà tout pour le sommaire. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. La Task Force pour la paix, la réconciliation et la reconstruction de l'Ituri a rendu compte ce vendredi à la presse de sa mission effectuée dans cette province de l'Est depuis le 28 décembre 2021. Les mandataires ont passé 4 mois sur le terrain où ils ont par ailleurs été pris en otage par des miliciens. Et selon eux, le mandat reçu du président de la République d'aller sensibiliser ces miliciens qui commettent les violences en Ituri à déposer les armes aura été un succès. Affirmation de Thomas Lubanga et Floribert Ndjabou qui animait la conférence de presse à la paroisse Notre-Dame de Fatima Diafungoy.
Le coordonnateur de la task force pense que celle-ci a réussi à sensibiliser les miliciens et la population de l'Est à la paix. Comment ces mandataires se sont-ils retrouvés en liberté, eux qui étaient pris en otage? Thomas Lubanga répond.
Tous les indicateurs nous disaient que d'ici là, certains d'entre nous ne seraient plus en vie. Nous sommes mis à réfléchir, l'armée a joué un rôle avec un quidam dont je ne voudrais pas citer les noms, mais qui est vraiment la main de Dieu dans ce que nous, c'est ce qui nous est arrivé.
Accusé de manigancer avec les miliciens, un autre membre de la task force refuse d'être catégorisé sur base de leur passé. Floribert Ndjabou.
Nous sommes les mauvais, nous n'avons pas le droit d'aller sensibiliser les miliciens pour qu'il y ait la paix. Non. Et je vous pose la question, qu'est-ce que ceux-là qui ont les meilleurs profils de ce monde ici et de la RDC ont fait pour qu'il y ait la paix? Parce que jusqu'à maintenant, rien ne marche là-bas à l'Est. N'allez pas nous diaboliser.
Parlant de revendications des miliciens, Lubanga les qualifie simplement de farfelus et dont il n'est pas important de parler.
Autre nouvelle. La voix des sans-voix pour le droit de l'homme dénonce et condamne la répression du 22 avril dernier devant le palais du peuple qu'elle qualifie de brutale et sanglante des militants du parti politique de l'opposition SID. Elle exige justice et réparation pour les victimes. Au cours d'une conférence de presse qu'elle a animée ce vendredi à son siège, la VSV pense que cette répression de la part de la police rappelle celle regrettable du régime passé. Son directeur exécutif recommande ainsi aux autorités congolaises de diligenter une enquête impartiale et indépendante pour en identifier les auteurs. On écoute Rostam Manketa au micro de Jeff Ngoy.
La répression de la manifestation du 22 avril 2022 viole le droit à la liberté de manifester, garanti par la Constitution de la République et les instruments juridiques et internationaux des droits de l'homme auxquels la République démocratique du Congo a souscrit librement. Point n'est besoin de rappeler que les images des personnes ensanglantées ainsi que celles des actes de vandalisme au siège d'un parti politique de l'opposition suite à une répression brutale n'honorent pas la République et font plutôt penser aux répressions du régime passé. La VSV dénonce et condamne la violation du droit à la sécurité et au respect de l'intégrité physique garantie à toute personne humaine, ainsi que le traitement cruel inhumain infligé à certains manifestants par des policiers. En effet, il est plus que temps pour que tous ceux qui prétendent travailler pour la République démocratique du Congo et pour le chef de l'État de tout mettre en œuvre pour le respect des droits humains.
En rapport justement avec cette répression, la VSV recommande aux autorités congolaises de prendre en charge les soins médicaux de toutes les victimes hospitalisées, particulièrement Cédric Mangungu, Arnold Ntobo dont les jambes ont été fracturées et Guillaume Tanfumu blessé par balle à la main droite, d'après les directeurs exécutifs de cette ONGDH. Et puis, confusion et pas de consensus autour du ticket de l'Union sacrée pour les élections du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Maïndombé. Après les tickets d'Eric Tabola, on parle encore d'un autre avec le sénateur Mafoua comme candidat gouverneur de cette famille politique. Entre-temps, plusieurs autres partis membres de l'Union sacrée maintiennent aussi leurs candidats, notamment l'UDPS et l'INAFEC. Le secrétaire fédéral de l'UDPS Maïndombé Fédération de Plateau, Richard Malongo, qui l'est dit, invite la hiérarchie de l'Union sacrée à trouver vite un consensus pour éviter le désordre au sein de cette plateforme. Il est au téléphone de Irène Bouma.
L'Union sacrée nous a mis dans une confusion après ces premières élections qui a dégagé un consensus de Mme Eric Tabola comme gouverneur. Et après, l'Union sacrée nous sort encore un autre consensus disant si Eric Tabola ne passe pas, c'est moi foi qui va passer, bien évidemment avec le vice-gouverneur comme part réservée à l'UDPS. Et une confusion que dans une même plateforme, deux candidats dans une même province, à l'heure qu'il est, il n'y a pas consensus autour de ces tickets-là. Tout candidat aujourd'hui doit impérativement se battre et surtout que ce sont les grands électeurs qui ont pris conscience de ce qu'est devenu le Maïndombé qui, depuis le démembrement jusqu'à aujourd'hui, n'a pas encore décollé avec son développement. Et maintenant, l'heure a sonné pour le développement du Maïndombé. À la hiérarchie, je leur demande d'être clair avec ça. Il y a encore presque une semaine pour ces élections que l'Union sacrée désigne officiellement un candidat pour sa plateforme, pour son compte, et que ce candidat-là passera toujours avec l'IDPS parce que c'est le parti présidentiel.
On revient ici à Kinshasa, une nouvelle plateforme regroupant les partis politiques et associations culturelles qui prônent le fédéralisme a vu le jour jeudi dernier au stadium du 4 janvier. La cérémonie s'est clôturée par la signature d'une charte du cartel des partis politiques et associations culturelles. Les adhérents, dont les partis politiques Alliance des bâtisseurs du Congo à Bako, Alliance politique des Kassavubistes, APK et quelques associations, estiment que le fédéralisme constitue la seule alternative pour le développement national intégré. Suivez les explications du président du parti Alliance politique des Kassavubistes, Pierre Basseya, au micro de Jean-Marc Matouaki.
L'unitarisme a montré ses faiblesses, ça a échoué lamentablement. C'est pourquoi nous en appelons à tous les Congolais. Le moment est venu de s'unir pour asseoir le fédéralisme pour le développement de la République démocratique du Congo. Nous en appelons à tous les partis politiques et associations culturelles qui prônent le fédéralisme de se joindre à nous pour défendre le fédéralisme. Parce que ce que nous voudrions, que les provinces soient autonomes. Les provinces ne sont pas autonomes. C'est pourquoi tu vois maintenant, on a beaucoup de bouchons à Kinshasa. Pour vendre même de l'eau, faut venir à Kinshasa. Un petit travail, faut venir à Kinshasa. Alors que si nos provinces étaient autonomes, avec les recettes, ils allaient développer les provinces. C'est pourquoi nous demandons à toute la population de s'unir pour asseoir le fédéralisme pour l'émergence de la République démocratique du Congo.
Autre nouvelle, après 4 jours de travaux, d'échanges et de concertations, le Forum régional de sensibilisation et de renforcement des capacités des acteurs des médias numériques sur la prévention des conflits liés au discours de haine et la lutte contre ces phénomènes en Afrique centrale s'est clôturé hier vendredi 29 avril. Le Forum avait réuni depuis le mardi 26 avril à Bangui, en Centrafrique, des journalistes œuvrant dans les médias en ligne et les blogueurs venus de 11 pays de l'Afrique centrale. À l'issue de ces assises, il s'est donc dégagé des recommandations sous 3 axes fondamentaux. Pamela Loubaki.
Le dernier jour de cette rencontre a été consacré aux travaux en atelier où les participants ont été regroupés en 3 commissions sous 3 thématiques suivantes. La synergie des actions dans la sous-région, la régulation et l'autorégulation en ligne, défis et perspectives et la cartographie des luttes contre les discours de haine et stratégies régionales. À l'unanimité, les participants ont formulé des recommandations sous 3 axes fondamentaux, à savoir la mise en place d'une plateforme regroupant les principaux acteurs des médias numériques actifs dans la prévention des conflits liés aux discours de haine, la mise en place d'un réseau sous-régional, des organes de régulation et d'autorégulation, enfin la mobilisation des ressources pour soutenir le travail des principaux acteurs des médias numériques et des instances de régulation et d'autorégulation. Les participants, dans la déclaration dite de Bangui, ont salué la tenue de cette rencontre, exprimé leur gratitude aux organisateurs, convenus de faire bon usage des expériences et des connaissances reçues, ont décidé enfin d'adhérer individuellement et collectivement à travers leurs associations respectives à la plateforme des organisations des professionnels des médias pour la paix et le développement durable en Afrique centrale, PROMEDAC, créée lors du premier forum organisé à Douala du 26 au 29 octobre 2021 afin de mutualiser les efforts. Les entités des Nations Unies organisatrices de ce forum ont exprimé leur satisfaction de la déclaration de Bangui et de la pertinence des recommandations formulées. Depuis Bangui, Pamela Loubaki pour Radio Okapi.
Qui vend des parcelles dans le cimetière de Kintsuka de la commune de Mongafula ici à Kinshasa? La question vaut son pesant d'or. Une grande partie de ce cimetière en effet est spoliée. Plusieurs familles ont élu domicile dans les nécropoles. Des maisons à matériaux durables tout comme en tôle sont visibles. Les acheteurs sont obligés de démolir en pleine nuit les tombeaux pour y construire des maisons. C'est là pour éviter les dérangements des familles qui ont enterré les leurs à ces endroits. Reportage au Ben Abedi.
Il est très révoltant si une fois vous arrivez dans le cimetière de Kintsuka. Sur place, plusieurs maisons en tôle sont construites sur des tombeaux et d'autres en matériaux durables. Une raison pour les agents commis à ces nécropoles d'exprimer leur mécontentement.
L'arrêté de fermeture n'existe pas. Le cimetière est opérationnel. Mais grande est notre surprise de voir le soi-disant chef coutumier vendre de terrain.
Cette situation n'a pas laissé indifférent quelques membres des familles de défunts enterrés à Kintsuka.
Nous y avons enterré notre maman et ma belle-mère aussi. Malheureusement, tous les deux tombeaux ont été démolis et il n'y a plus de traces. C'est pour gagner de l'argent qu'ils font tout ça.
Le chef coutumier Nelly, qui a aussi sa maison d'habitation dans ses nécropoles, souligne qu'il ne maîtrise pas correctement cette situation des ventes de terrain. Par ailleurs, le bourgmestre de la commune de Mongafula, Alidor Chibanda, contacté au téléphone, a indiqué que tout celui qui achète les terrains dans le cimetière investit à la perte.
Je viens les apprendre qu'ils sont en train de perdre leur argent. Dans peu de temps, toutes ces maisons seront démolies. Les travaux ont beaucoup évolué. Bientôt, elles verront des enjeux pour ça sans préavis, car il s'agit de l'occupation illégale. Tout cela pour rétablir l'État dans ses droits.
Le marché des pompages sera aussi érigé dans ce cimetière de Kintsuka.
Et puis au Nord Kivu, 44 écoles du territoire de Nyiragongo bénéficient depuis l'année dernière du programme de cantine scolaire, du jardinage dans les écoles ainsi que des installations hygiéniques. C'est dans le cadre d'un projet que met en œuvre le consortium PAM-UNICEF-FAO. L'ambassadeur adjoint de la Norvège en RDC a visité ce vendredi l'une de ces écoles. Son pays appuie le programme de cantine scolaire. Knut Oseid a dit apprécier la joie des élèves qui peuvent suivre les cours tous les jours grâce à cette cantine scolaire. Reportage, Rosalie Zawadi.
Si tu es déjà fatigué, affamé, on amène la nourriture, tu manges et puis tu continues.
Comme la petite Daniela de l'école primaire Miseituni, ils sont plus de 25 000 les élèves du territoire de Nyiragongo à bénéficier de ces programmes de cantines alimentaires scolaires. Comme les élèves peuvent manger à l'école, leurs effectifs sont stables dans ces territoires où les taux de déperdition scolaire est élevé. C'est ce qu'explique Fidel Mouindo, directeur de cette école.
Il n'y a plus d'absence d'écoliers. Les enfants maintenant ont le goût d'étudier. Ils disent non, je vais à l'école parce que je vais manger à 10h30 ou bien à 12h30, c'est des après-midi.
Après avoir vu les élèves manger, l'ambassadeur adjoint de la Norvège en RDC, Knut Oseid, s'est dit satisfait de voir la contribution de son pays servir à ces milliers d'enfants.
J'ai vu beaucoup d'espoir, beaucoup d'énergie, beaucoup d'enfants qui me semblent être en bon esprit. Ça me plaît beaucoup. Grâce aux partenaires, le PAM, la FAO, l'UNICEF, on peut voir comment ça se passe sur le terrain.
Notons que la Norvège a aussi financé la reconstruction des 5 écoles de Nyiragongo qui avaient été détruites par l'éruption volcanique de mai 2021. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Autre nouvelle, 10 filles mères vivant avec handicap ont été formées en élevage des poules à Beni. Pendant 2 jours, elles ont appris des techniques pour tenir des élevages de bonne qualité. Le projet pilote financé par le Fonds pour les femmes congolaises est destiné à favoriser l'autonomie financière de ces femmes qui vivent souvent dans la précarité. Un reportage de Guylaine Kassassia rendu par Blaise Ndongala.
À l'issue de cette formation, chaque participante a reçu ce vendredi 20 poussins, des mâchoires et des aliments pour volailles. Ce qui, selon les initiateurs de ce projet, permettra à ces dames d'avoir de quoi subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. Ce projet réjouit Emmanuel Kakoulé, président du conseil d'administration d'Agence congolaise de promotion des droits des personnes handicapées. Il dit avoir choisi cette catégorie de femmes parce qu'elles sont vulnérables et confrontées à plusieurs difficultés dans la société. Il assure aussi qu'un vétérinaire va accompagner chacune de ces femmes novices dans ces domaines. africaines et qui ont exprimé leur souhait d'un accompagnement pour que ces projets réussissent. Sort. L'une d'entre elles a affirmé qu'elles ont reçu chacune 20 poules. Ces coups de pouce leur permettra également de scolariser leurs enfants, mais aussi de prendre leurs soins de santé, voire payer les loyers. Tout en saluant ces projets, ces femmes estiment que cette aide leur permettra d'améliorer leurs conditions de vie. En quoi le Fonds pour les femmes congolaises, ces projets pourraient s'étendre dans d'autres zones de santé du territoire de Béni, puis de la province, au regard des financements.
Actualité internationale.
Gibril Massakwa, un ancien commandant et porte-parole du Front révolutionnaire uni, le Rouf de Fodé-Sanko, avait été arrêté en 2020 dans le pays où il vivait en exil. Mais le tribunal a estimé vendredi 29 avril qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes pour le condamner. L'accusation n'est pas parvenue à prouver avec une certitude suffisante que Gibril Massakwa avait participé au viol, au meurtre et au rapt d'enfants, soldats pour lesquels il était poursuivi. En s'appuyant sur un arrêt de 800 pages, le tribunal l'a donc acquitté, estimant qu'il était probable que l'accusé n'était pas au Libéria au moment où les crimes ont été commis.
L'invité.
Il ne faudrait pas considérer l'enseignement comme un canard boiteux, car ce secteur produit des enfants compétitifs. C'est ce qu'a affirmé le directeur provincial de l'EPST Sud Kivu 1. Simon Zono s'exprimait ainsi à l'occasion de la Journée nationale de l'enseignement ce 30 avril. Il revient sur la série d'activités organisées au Sud Kivu à l'occasion de cette célébration. Il s'entretient ici avec Rachel Kessembangu. Suivez.
Provet Zono Simon, bonjour.
Bonjour, Madame Rachel.
C'est la journée nationale de l'enseignement. Qu'est-ce que cela représente pour vous en tant que directeur de l'EPST Sud Kivu 1?
Bon, c'est une journée que nous commémorons parce que elle est dédiée à l'enseignement national, parce que vous savez que c'est depuis le 30 avril 1954 qu'il a plu au ministre des colonies, Auguste Buseret, de créer les premières écoles dites laïques destinées aux enfants des autochtones. Et depuis ce temps-là, cette journée a été retenue comme fête nationale de l'enseignement et nous commémorons cela pour nous réjouir, nous, en tant qu'enseignants.
Que faire aujourd'hui pour relever l'enseignement dans notre pays, particulièrement dans le Sud Kivu?
L'enseignement dans notre pays, il ne faut pas d'abord que les gens le considèrent toujours comme un canard boiteux. Nous avons organisé des journées portes ouvertes à travers 8 écoles de la ville de Bukavu et nous nous sommes rendus compte que le sous-secteur de l'EPST produit des enfants qui peuvent être non seulement compétitifs au niveau national mais aussi au niveau international. Nous avons vu les enfants qui ont eu de l'imagination pour extraire la potasse caustique des épluchures de bananes et ils s'en sont servis pour produire du savon. Il y a des enfants qui ont dû produire de l'électricité à partir de citrons. Je sais que tout n'est pas rose, mais il faut que nous sachions que nous travaillons, que nous mettons à la disposition de l'État congolais des enfants qui, demain, peuvent participer activement au développement de ce pays. Mais il y a des difficultés, c'est vrai, auxquelles on doit trouver des solutions.
En parlant des difficultés, quels sont les défis auxquels vous faites face dans les secteurs de l'éducation?
Bon, je parle par exemple du taux assez élevé des écoles qui sont construites en matériaux périssables. Mais là, l'État est en train d'apporter des solutions avec ou sans appui de partenaires techniques et financiers. Le Fonds social est en train de construire beaucoup de nouvelles salles de classe chez nous avec l'UNICEF et la Vision mondiale. Et là, ce sont des grands défis auxquels nous faisons face. Dans ce cadre, je dois aussi féliciter le gouvernement en général et le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique en particulier pour avoir réussi à obtenir la mécanisation de 200 nouvelles écoles primaires dans tout le Sud Kivu qui venaient d'être mécanisées.
Cela signifie quoi exactement?
Cela signifie que c'était des écoles qui n'étaient pas dans des fichiers payés. Les enseignants n'étaient pas payés. mais elles viennent d'intégrer le fichier paye. Leurs enseignants venaient d'être payés. Et non seulement qu'il y a ces nouvelles écoles qui sont payées, mais aussi dans les anciennes écoles primaires, on trouvait par-ci par-là des nouvelles unités. Elles sont également payées.
Vous avez organisé une grande conférence sur le cadre juridique du droit de l'enfant pour un enseignement de qualité. Parle-nous-en.
Je suis épris par la notion de l'éducation de qualité. Et la qualité doit être au cœur de l'éducation. Parce que c'est cette éducation qui est le socle du développement de tous les pays. Il y a tout un arsenal de textes juridiques du niveau international, régional et national qui sont relatifs aux droits de l'enfant à une éducation et par n'importe laquelle, mais une éducation de qualité. Et il fallait rappeler à tous nos compatriotes que le droit de l'enfant à l'éducation est garanti par des textes juridiques, mais aussi il y a un dénominateur commun à tous ces textes, c'est la gratuité de l'enseignement primaire et leur caractère obligatoire. Au niveau international, la CDE, la Convention relative aux droits de l'enfant, il y a les pactes international sur le droit culturel, socio et économique qui revient sur ça. Il y a la charte africaine du droit et du bien-être de l'enfant qui revient sur le caractère gratuit et obligatoire de l'enseignement primaire. À notre niveau, nous ne pouvons que nous inscrire dans cette logique de la consolidation et la pérennisation de la gratuité.
Prophète Simon Zonon, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.